Bonjour à toutes et à tous. On va vous proposer aussi de monter votre adoration pendant ce moment de culte, ce moment communautaire. Et ça va être un chouette moment. Merci aussi à vous qui nous rejoignez donc ici dans cette salle et aussi par streaming. Soyez aussi les bienvenus dans ce lieu de culte. Bienvenue aussi à la famille Suardi. Donc on aura David qui sera notre prédicateur, donc pasteur à l'église La Croisée de Blenay. Donc un échange de chair avec Philippe qui sera lui-même là-bas à Blenay. Donc bienvenue et bienvenue aussi toute ta famille, donc à Aurélie et ses deux enfants. Et puis pour la louange, on aura aussi la belle famille, donc on aura David et Barbara. Donc entre les deux David, Goliath, il n'a qu'à bien se tenir. Alors voilà, nous aurons aussi ce moment de prédication. Donc David va aussi utiliser le Slido. Donc vous vous rappelez cette formule qui permet de poser des questions. Donc il y aura le numéro qui va s'inscrire sur l'écran, sur le streaming, sur le Beamer. Et je vous propose donc d'introduire ce temps par la prière. Alors, Seigneur Jésus, nous voulons invoquer ton nom. Merci aussi pour nous réunir autour de cette salle et autour de ce streaming. Seigneur, nous soyons tous une même famille, que ce soit ici à Mérin, que ce soit à Genève ou dans le monde. Seigneur, nous voulons honorer ton nom, nous voulons te louer. Nous voulons aussi que ton Saint-Esprit nous rejoigne dans nos cœurs pour pouvoir t'entendre, pour pouvoir être encouragé par toi, pour pouvoir être rejoint par toi. Et c'est vrai, Seigneur, que notre foi, elle dépend de cette rencontre avec toi. Et nous voulons vraiment que tu sois dans nos cœurs et que nous puissions entendre ta parole. Alors, Seigneur Jésus, nous voulons que tu nous bénisses et nous voulons que tu nous rejoignes ici. Et nous, nous voulons être à ton écoute. Amen. Alors, pour les enfants, on a prévu aussi un petit quelque chose. Alors, bienvenue aussi aux enfants. Hein. Vous êtes bien quelques-uns aujourd'hui, donc c'est cool. Et puis, j'avais prévu un petit quelque chose pour vous. Donc, après, il y aura la louange. Mais si Roxane peut nous envoyer le petit quelque chose. Ça y est, c'est parti.
Lorsque Jésus était sur terre, il était entouré de ses disciples. Il y avait Matthieu, Jacques, Simon et bien d'autres encore. C'est Jésus lui-même qui les avait choisis pour qu'ils puissent l'accompagner partout où il allait. Ce jour-là, ils étaient en route pour Jérusalem. Comme à son habitude, Jésus parlait avec les gens qu'il rencontrait sur son chemin. Bien souvent, il s'installait à l'ombre d'un palmier ou sur une colline et il en profitait pour les enseigner, pour dire aux gens combien Dieu les aimait. Jésus commençait à être connu et bien souvent, une grande foule se pressait autour de lui. Beaucoup de gens avaient envie de l'écouter. Ce jour-là, Jésus était assis et il parlait de choses très importantes et très sérieuses. C'était des discussions d'adultes, seulement pour les adultes. Mais dans cette foule, il n'y a pas que des adultes. Il y a des femmes qui sont là et qui sont venues avec leurs enfants. Bah oui, elles ne pouvaient pas les laisser tout seules à la maison, puis elles avaient très envie de venir voir Jésus, alors elles les ont pris avec. Sûrement que ces enfants-là, ils devaient courir un peu partout, qu'ils faisaient du bruit, et probablement qu'ils dérangeaient. Mais les mamans qui étaient là, elles s'approchent de plus en plus de Jésus. Bah, elles aimeraient beaucoup que Jésus touche et bénisse leurs enfants. Les disciples étaient autour de Jésus. Ils regardent que tout se passe bien. Et ils entendent ces enfants qui font du bruit et puis ça les agace un peu quand même. Et ils ont demandé aux mamans de les emmener ailleurs. Mais chut, Jésus est dans une conversation très sérieuse. Il ne peut pas prendre du temps pour vous ou pour vos enfants. Bah, il n'est pas là pour toucher les enfants, il parle. Mais allez plus loin. Mais qu'est-ce que j'entends ? C'était Jésus qui s'était retourné et qui n'était pas très content de voir que les disciples repoussent les enfants. Laissez venir ces enfants jusqu'à moi. J'ai du temps pour eux. Mes discussions peuvent attendre. Ces enfants sont très importants et je les aime tellement. Quelle joie de les voir parmi nous. Jésus les a pris sur ses genoux. Il les a bénis. Moi, je suis sûre qu'il les a chatouillés parce que les enfants, ils aiment les chatouilles. Et Jésus, il aime entendre rire les enfants. Encore aujourd'hui.
Alors, les enfants, vous avez le droit de faire du bruit, puis de chanter, puis de... Oula! Je crois que c'est moi qui ai fait le bruit, là. Je sais pas ce qu'il y a eu. Bon, excusez-moi. C'était pas prévu. Donc, j'espère que c'est dans la joie qu'on va pouvoir louer le Seigneur, maintenant. Avec des paroles qui sont des fois engageantes, des fois des paroles qu'on comprend pas toujours, hein. Mais je crois que c'est ça aussi, d'être ensemble, d'avoir cette chance de pouvoir louer Dieu ensemble, et on va faire trois chants, un chant de proclamation, un chant d'adoration et un chant d'engagement. Et dans le chant de proclamation, où on dit notre foi, eh bien on va dire « ton nom est le plus grand ». On va dire « nos voix résonnent dans l'éternité ». On va dire « l'univers proclame, tu es saint ». À jamais tu es saint. À jamais. Ça veut dire quoi, à jamais ? À jamais tu es saint. Ah, ça veut dire toujours. C'est la même chose. Ah, ben voilà. À jamais, ça veut dire depuis toujours et jusqu'à toujours, tu es saint. Voilà. Mais c'est un mot qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Tu me fais rire à toujours. Dans le deuxième chant, le chant d'adoration, on va dire qu'on veut tourner les regards vers Dieu parce qu'on est reconnaissant qu'il est le seul chemin, qu'il donne sens à notre vie. Et on veut qu'il nous, on veut apprendre à marcher dans ses voies. Et dans le troisième champ, un champ d'engagement, on va demander la présence du Saint-Esprit de venir souffler sur nous. Le Saint-Esprit, c'est aussi un truc un peu mystérieux. Anne, elle a sûrement la réponse. Mais le Saint-Esprit, c'est le souffle de Dieu. Hein, Dieu, il est trois personnes en une seule personne. On a Dieu le Père, on a Dieu le Fils, qui est Jésus, on a Dieu, le souffle de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Et les trois, ils font qu'un, et c'est notre Dieu, et c'est lui qu'on veut célébrer aujourd'hui. C'est assez mystérieux, cette question de Trinité. Peut-être que Philippe, une fois, aura un thème là-dessus, je ne sais pas. Mais l'Esprit, il est là pour confirmer que notre foi, que ce qu'on croit, que le pourquoi on est venu ce matin à l'Église, eh ben, c'est du réel, c'est du concret, et c'est vrai. Et Dieu, il nous accueille aujourd'hui, avec notre semaine, qui a peut-être été compliquée, mais il nous accueille. Vous qui l'a racheté, vous que Dieu aime, venez chanter ce cantique, ce chant ensemble.
Tu es saint, tu es glorifié, tu es très saint. veux toujours te louer. Je te chercherai dès l'aube. J'apprendrai à marcher dans tes voies. Et pas à pas, tu me conduis. C'est toi que je suivrai toute ma vie. C'est toi que je suivrai toute ma vie. Toi que je suivrai toute ma vie.
Dieu, pour ton esprit qui renouvelle notre espérance en toi, qui confirme notre foi que nous avons, que tu es le Dieu d'amour. Merci Seigneur pour tes bras qui sont grands ouverts chaque jour, quelle que soit notre situation. Merci parce qu'on peut venir ce matin vers toi. Merci Seigneur pour les enfants. Merci parce que les enfants nous apportent la joie. Ils sont joyeux, parfois turbulents, mais on les aime comme ça. Merci Seigneur. Et merci parce que tu veux eux aussi les enseigner. Et nous te remettons Chantal et Zéna qui vont accompagner les enfants maintenant pour la suite de ce culte et pour ce qu'ils vont apprendre. Et Seigneur, nous te remercions pour tous ces enfants. Amen. Alors voilà, vous pouvez rejoindre Chantal et Zena, les moniteurs, les monitrices.
Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez ? Alors, je vais lire dans Jérémie 2, 11 à 13. Une nation a-t-elle déjà changé de Dieu, alors même que ce ne sont pas de vrais dieux ? Pourtant, mon peuple a échangé ce qui faisait sa gloire contre ce qui n'a aucune valeur. Ciel, sois-en consterné, sois-en horrifié, atterré, déclare l'Éternel. En effet, c'est un double mal que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Et puis un deuxième texte dans Jean 6, 35. Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de la vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. »
Déjà, merci pour l'accueil ce matin. Ça me fait plaisir d'être parmi vous, de pouvoir apporter ce message. Un message que je commence avec cette question. Est-ce que, comme moi, vous aspirez à être rempli, à être satisfait, à avoir un cœur qui est apaisé ? Est-ce que, comme moi, vous aspirez au fond de vous à connaître une paix profonde. Je crois que peu importe notre âge, peu importe notre origine, peu importe notre croyance, si nous sommes un être humain, il est fort probable que cette aspiration habite notre cœur. Et c'est dans ce sens ce matin que je vous propose cette question : où vais-je satisfaire cette aspiration du cœur ? Alors, il y a deux semaines, ma femme Aurélie a préparé un repas pour la famille, des saucisses, de la purée, et puis, qu'est-ce qu'il y avait encore ? Des légumes. Elle a déposé les assiettes devant nos deux filles, devant Chloé et Nora. Mais rapidement, Nora a levé les yeux, a regardé l'assiette de sa sœur et a pointé l'assiette de sa sœur. Pourtant, il y avait la même quantité de sauce, les mêmes aliments, la même chose, mais qu'est-ce qu'elle avait envie de l'assiette de sa sœur ? Puis comme je préparais ce message, j'étais frappé à voir à quel point, depuis tout petit, ce qu'on ne possède pas est plus intéressant que ce qu'on possède. Peu importe notre âge, il y a cette croyance profondément ancrée en nous. Si je possède, si je possède telle chose, je serai plus heureux. Quand je regarde ma propre vie, je vois à quel point j'ai de la peine à me satisfaire, à me réjouir de ce que j'ai. Si vous me mettez au milieu d'un magasin comme MediaMarkt, j'aurais l'impression que tout ce qui m'entoure pourrait me rendre heureux. Je ne sais pas s'il y en a comme moi ici, qui sont comme ça, ou un autre magasin. Pour moi, ce MediaMarkt fonctionne assez bien. Qu'est-ce que ça vient toucher en moi ? Pourquoi est-ce que ce désir de posséder des choses impacte tellement mon cœur ? Forcément, j'ai dû réfléchir à cette question. Et une des réponses m'est venue en tête. Je crois que cela vient toucher quelque chose que je partage, que l'on partage avec le reste de l'humanité. Cela vient toucher notre quête de bonheur, notre quête d'identité, notre quête de sécurité et de paix intérieure. Toute notre vie est motivée, dirigée par cette quête. Mais d'où vient-elle ? D'où vient cette quête ? J'aimerais lire avec vous dans la Bible, dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, le verset 27. Dieu créa l'être humain à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu a créé chacun d'entre nous. Il a façonné notre corps dans toute sa complexité. Nos 206 os, nos 639 muscles, nos différents organes, notre système nerveux, digestif, circulatoire, respiratoire. Il a dessiné et modelé chacune des parties de notre corps. Puis il a fait de nous des êtres vivants, capables de bouger, de toucher, de sentir, parler, écouter. Capables aussi de réfléchir, de ressentir, d'aimer et surtout de s'émerveiller. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a créé dans notre cœur, en nous, un canal qui nous relie à lui. Pour vivre en relation avec nous, il a créé ce canal. Un canal spirituel par lequel il est possible de recevoir toute la sécurité, de recevoir toute la paix, de recevoir toute la joie nécessaire à notre vie. Pour le dire autrement, lorsque Dieu a façonné le cœur des premiers êtres humains, il y a placé le besoin de vivre en relation à lui. Le besoin. Une relation qui offre toute la joie, la sécurité et la paix nécessaires. Et cette communion avec Dieu, elle était tellement nécessaire, si nécessaire, qu'on pouvait même la mettre au-dessus de la boisson, de la nourriture, parce qu'elle touche notre vie, elle encourage notre vie, elle nous permet de vivre dans cette paix, dans cette sécurité, dans ce bonheur en Dieu. Alors malheureusement, beaucoup ici le savent, la Genèse nous parle de ce moment où les êtres humains ont détourné le regard de Dieu pour se tourner vers autre chose. Ils se sont dit peut-être que Dieu nous cache quelque chose. Peut-être qu'il y a un bonheur supérieur à l'extérieur de Dieu. Peut-être même que si on devient son égal, on expérimentera plus de joie, plus de sécurité, plus de paix, plus de liberté. Mais ce choix a brisé cette relation de confiance. Le canal a été coupé, n'ayant plus accès à cette joie, n'ayant plus accès à cette sécurité, cette paix du Créateur, notre cœur s'est mis à chercher ces choses dans la création. Et c'est là que notre quête a commencé. C'est là que notre quête a commencé. Mais comme moi, vous savez que le créé n'aura jamais la capacité de remplir notre vie. Cette télévision OLED 60 pouces, ce nouveau smartphone, ces nouveaux bijoux, ces habits, peut-être un temps vont nous remplir de paix, de joie, mais au bout d'un moment, on se rend compte que c'est pas vraiment durable. Alors, peut-être qu'il faut un projet un peu plus grand, Allez, cette voiture que j'aimerais depuis que je suis petit. Cette nouvelle Gibson. Ce tableau de maître dans ma maison. Ça va sûrement remplir mon cœur. Problème, on voit que au bout d'un moment, on ressent ce manque, cette soif. Alors, peut-être qu'il faut un projet à la hauteur de mes besoins. Allez, cette maison que je veux retaper, tout refaire, avec hammam, jacuzzi, ça va vraiment remplir mon cœur pour des années et des années. Mais en fait, on se rend bien compte qu'à un moment donné, même pour un projet aussi grand, aussi gros, on ressent en nous, à un moment donné encore, cette soif, ce vide à l'intérieur de nous. J'ai mis l'accent sur les biens matériels, mais j'aurais pu prendre d'autres exemples. La carrière, le sport, la nourriture, la famille, les projets, les loisirs. Toutes des choses qui sont bonnes, toutes des choses qui ont été créées par Dieu pour qu'on puisse en profiter avec lui. Le problème, ce n'est pas d'apprécier ces choses. Je ne vous appelle pas ce matin à devenir des ascètes, à tout abandonner. Le problème, c'est que notre cœur a tendance à s'attacher à ces choses, à ces personnes, à ces projets, pour satisfaire ses aspirations profondes. Alors peut-être que vous me direz, David, je sais tout ça. Voilà, ça fait 50 ans que je suis chrétien, c'est quelque chose que je connais, que j'ai déjà entendu. Peut-être que mon voisin de droite, celui de gauche, qui ne connaît pas Jésus, peut-être pour lui ça peut faire sens. Mais est-ce qu'au fond de nous, on le sait vraiment? Est-ce que notre cœur l'a vraiment assimilé? En tout cas, je me rends bien compte à quel point tout ça, pour moi, a de la peine à descendre de la tête à mon cœur, à ma vie intérieure. Il y a toujours des choses qui me rattrapent. Cette impression que lorsque j'aurai acheté telle chose ou que j'aurai réalisé tel projet, atteint tel objectif, enfin là, je pourrai me reposer, je serai tranquille intérieurement. L'exemple que j'ai pris ici, que je vous ai présenté, je l'ai tiré du prophète Jérémie au chapitre 2, le texte que vous avez lu tout à l'heure, on va le relire ensemble. Dieu reprend son peuple qui, au lieu de lui faire confiance, se tourne vers les dieux des nations voisines. Et voici ce qu'il dit. Une nation a-t-elle déjà changé de Dieu ? Alors même que ce ne sont pas de vrais dieux ? Pourtant mon cœur, mon peuple a échangé ce qui faisait sa gloire contre ce qui n'a aucune valeur. Ciel, sois-en consterné, sois-en horrifié, atterré, déclare l'Éternel. En effet, c'est un double mal que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Ce passage, je le trouve tellement fort. En tout cas, à chaque fois que je le lis, il me percute. En se tournant vers d'autres dieux, le peuple a abandonné la source d'eau vive pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Alors on peut juger le comportement du peuple, ou alors on peut lire ce texte pour nous. On peut regarder notre propre cœur. Parce qu'encore aujourd'hui, il existe des idoles. Encore aujourd'hui, il existe des faux dieux. Une idole, qu'est-ce que c'est ? C'est tout ce qu'on élève au-dessus de Dieu pour recevoir identité, prospérité, sécurité. Tout ce qu'on élève au-dessus de Dieu pour recevoir identité, prospérité et sécurité. Argent, sexualité, pouvoir, réseaux sociaux, sport, musique, santé, carrière, relations, famille, des causes pour lesquelles on se bat, des projets, des biens matériels. Toute chose, bonne ou mauvaise, peut devenir une idole si je lui donne comme rôle de satisfaire les besoins profonds de mon cœur. Lorsque Dieu avertit son peuple, comme ici au travers de ce texte, de cette parole des citernes fissurées, ce n'est jamais pour poser un point final. C'est toujours pour ramener à lui. C'est toujours pour rappeler à la vie. Notre Créateur, Dieu notre Créateur, désire ardemment restaurer les cœurs brisés, restaurer les cœurs fissurés, déçus, désillusionné. Il t'appelle, il m'appelle à laisser nos citernes pour être remplis de sa présence. Alors Dieu est une source d'eau vive, je pourrais bien déborder ce gobelet, mais je ne vais pas le faire pour préserver toute la technique de la scène. Dieu nous rappelle à lui sans cesse, non pas une fois, non pas deux fois, mais nous rappelle à lui sans cesse pour chercher en lui ce contentement, cette satisfaction, cette joie. Et cette source, elle est offerte par Jésus-Christ. Jésus répondit, « C'est moi qui suis le pain qui donne la vie. » Celui qui vient à moi n'aura plus jamais soif. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Jésus, comment est-ce qu'il comble notre cœur? Pourquoi est-ce qu'il le comble? C'est parce qu'il nous reconnecte au Père Céleste. Il nous reconnecte à l'amour de notre Créateur. Par sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ devient même ce canal qui nous permet de rencontrer Dieu. Alors ce matin, je ne m'adresse pas seulement à celles et ceux qui n'ont pas encore placé leur confiance en Dieu. Peut-être que certains d'entre vous ici, vous n'avez pas encore déposé votre vie, abandonné votre vie devant Dieu. Mais je m'adresse à toutes et tous. Et à moi aussi qui creusons bien souvent de nouvelles citernes. Qui élevons des choses, des personnes, des causes, des projets au-dessus de notre relation à Jésus. Qui espérons d'une manière ou d'une autre que cela va remplir notre cœur. Et bien souvent, c'est des moments où on ne s'en rend pas forcément compte sur le moment. C'est après coup, en prenant du recul, on se dit « mais il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. » Et peut-être même que ce matin, pour certains d'entre vous, c'en est presque une maladie, c'en est maladif. Vous vous sentez comme enchaîné à cette chose, cette personne, ce projet. Elle se retourne contre vous, elle vous remplit de stress, d'inquiétude. Elle vous empêche de dormir, de vivre, d'être en paix. Eh bien, nous tous, j'aimerais nous dire qu'il y a toujours un espoir en Jésus, il y a toujours un salut possible. Et Jésus nous invite à ouvrir nos mains, à lui déposer ces choses-là, ces citernes, à abandonner nos citernes devant lui pour pleinement accueillir sa joie, pleinement accueillir sa paix, sa vie. propose de prendre simplement 5 secondes, ouais, peut-être 15 secondes. Vous pensez à un élément, peut-être que vous en avez déjà un dans votre tête, où vous vous dites, là, peut-être que cette chose n'est pas positionnée à la bonne place dans ma vie. Donc, prenez simplement voilà, quelques secondes pour mettre cette chose-là à côté de cette parole qui dit « Jésus est ta source de joie, ta source de paix, ta source de tranquillité, de bonheur. » J'aime rappeler qu'il s'agit moins d'un combat, qu'un combat contre la convoitise, qu'un combat pour la joie, pour la paix, pour la sécurité. Il ne sert à rien de combattre contre si ce n'est pour remplacer par quelque chose qui a du sens. Je crois que l'apôtre Paul avait compris cela dans son ministère. Je lis entre autres dans Philippiens 4. J'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris, m'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'aie faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Dans 1 Timothée 6, où il dit aussi « recherche ardemment la droiture, l'attachement à Dieu, la fidélité, l'amour ». Et il dit « combat, le bon combat de la foi ». J'ai envie de dire « pour la foi ». Un combat pour. Saisis la vie éternelle. Trouver notre contentement en Jésus n'est pas juste une règle religieuse. Vivre avec Jésus, c'est expérimenter cette joie, c'est expérimenter cette paix. Cette vraie sécurité, c'est accueillir la vie avec un grand V. Et ça nous amène à deux questions. Est-ce qu'encore aujourd'hui, je crois que Jésus est le seul capable de rassasier mon cœur? Est-ce que c'est quelque chose que je crois encore aujourd'hui? Ce n'est pas une question de surface, c'est une vraie question que je nous pose. C'est une vraie question que je nous pose. Est-ce que je lui laisse suffisamment de place dans ma semaine pour cultiver ma relation avec lui? Bien sûr, par la lecture de la parole, bien sûr, par la prière, mais au-delà de ça, dans ma semaine, dans ma journée, est-ce que Jésus est avec moi? Et est-ce que je trouve ma sécurité, mon bonheur parce que j'arrive à connecter chaque moment de mon quotidien avec Jésus. Ma prière, c'est que Dieu nous donne de grandir dans l'émerveillement. Je crois que pour abandonner nos citernes, il ne suffit pas de dire « je refuse ces citernes et je place Jésus » à la place de ces citernes. Je crois que Dieu nous invite à accueillir Jésus dans notre combat. Comme j'ai dit avant, bien souvent, on ne réalise même pas qu'on est peut-être dans une... on positionne quelque chose d'une mauvaise manière dans notre vie. On ne se rend pas compte forcément tout de suite. D'où l'importance que Jésus soit constamment près de nous et que dans notre combat, quand on réalise qu'une chose prend beaucoup de place, qu'on puisse laisser Jésus agir et laisser Jésus devenir plus merveilleux que cette chose, que cette personne ou que ce projet. Je crois que ce passage de Timothy Keller m'a énormément encouragé dans son livre, un de mes livres préférés, Les idoles du cœur, qui dit « Jésus doit devenir plus beau à notre imagination ». Plus attirant à notre cœur que nos idoles. Voici ce qui remplacera nos faux dieux. Si nous arrachons l'idole sans planter l'amour du Christ à sa place, l'idole repoussera. J'aime cette phrase, Jésus doit devenir plus beau à notre imagination, plus attirant à notre cœur que nos idoles. Avant de passer à la dernière diapo, j'aimerais prier. Seigneur, on sait que, bien sûr, on désire vivre avec toi tous les jours dans notre quotidien. Mais c'est facile de le dire un dimanche matin, après un temps de louange, lorsqu'on est concentré sur toi. On a besoin de le vivre dès le matin au lever, à notre travail, dans nos loisirs, notre famille. Rappelle-nous, Seigneur, que tu veux remplir notre vie aussi à ce moment-là. Dans nos combats, dans notre fatigue, dans notre lassitude aussi. Aide-nous par le Saint-Esprit à rechercher nos forces en toi. J'aimerais prier pour toutes les personnes qui ont l'impression d'être enchaînées à quelque chose en ce moment. Ça occupe leur esprit du matin au soir. Ça prend une proportion telle que ces personnes sont remplies de stress, d'anxiété, de peur, de colère, toutes sortes de choses. Seigneur, donne-leur la force par le Saint-Esprit d'abandonner ces citernes fissurées, de repositionner ces choses à la bonne place. Donne-leur d'avoir un cœur rempli de ta présence, totalement en paix, parce que tu es là, parce que tu reconnectes, tu les reconnectes à la présence du Créateur dans leur vie. Donne-nous d'être plus émerveillés par toi chaque jour pour que toutes les autres choses autour pâlissent. Non pas qu'elles ne soient pas importantes, mais comparées à toi, ces choses doivent pâlir. Donne-nous dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, de regarder en arrière et de voir que tu es plus merveilleux à nos yeux que par le passé. Amen. Je termine, j'aime bien terminer avec cette petite image, des fois avec Alain Derset. Donc on voit un petit personnage hein, qui, voilà, c'est la fin de sa vie. Il a amassé beaucoup de choses. Mais il se rend bien compte que toutes ces choses-là, il ne pourra pas les prendre avec lui à la fin de sa vie. Pourquoi cette image ? Ce qu'on vit ici est important, il y a de la valeur. Mais la seule chose qu'on emportera, je crois, ou en tout cas la plus importante, vers le Créateur, c'est la relation qu'on aura tissée avec lui tout au long de notre vie. On se présentera un jour les mains totalement vide, la chose qui sera la plus précieuse, ce sera cette relation qu'on aura tissée avec lui et l'impact, bien sûr, que cette relation aura eu dans notre vie, dans nos relations, dans notre quotidien. Donc je vous laisse cette petite image pour méditer. Voilà.
Je ne sais pas s'il y a eu quelques questions sur le Slido. Ce que je vais vous proposer, c'est de rester assis et de chanter ce chant, un souffle nouveau, comme une prière, de faire ce chant méditatif. Et pendant ce temps, David pourra regarder s'il y a quelques questions sur le Slido. Restons dans la prière.
Je n'ai qu'un désir, être père.
Voilà, alors j'ai reçu une question. Je vous la lis. Que faire quand nos projets tournés vers Dieu ne fonctionnent pas ? Implanter une nouvelle église ? Point d'interrogation. Très bonne question. Que faire quand nos projets tournés vers Dieu ne fonctionnent pas ? Alors, je n'ai pas eu le temps de me préparer pour cette question, mais ce qui me vient en premier en tête, c'est est-ce que vraiment cela ne fonctionne pas ? Quelle est notre définition de fonctionner ? Je me rappelle de projets qu'on a pu lancer où sur le moment, on avait l'impression que tout avait capoté, que l'objectif qu'on s'était fixé par rapport à ce projet, en fait, ne valait rien. Comme si toutes les rencontres qu'on avait vécues ne servaient tout à coup à rien, étaient jetées à l'eau. Je crois que le processus du projet est tout autant important que l'objectif, et que l'objectif bien souvent appartient à Dieu. Des fois, il nous permet de voir des fruits de ses projets, et c'est magnifique, gloire à lui. Et d'autres fois, on n'en voit pas forcément les fruits, mais il y a des fruits qui sont cachés, qui ne sont pas visibles, et pourtant Dieu a agi. Alors je ne crois pas qu'il faille implanter une nouvelle église. L'implantation, peut-être je ne la lirai pas forcément à cette question, c'est encore peut-être une autre question. Quand, comment, quoi implanter ? Mais par rapport à ces projets tournés vers Dieu, je dirais que de lui faire confiance. Et puis, peut-être que parfois on fait des projets qui ne sont pas forcément ceux de Dieu, mais on imagine que c'est les siens, mais... Ça permet aussi de prendre du recul sur soi, sur son projet devant Dieu et de le déposer. Donc, ouais, voilà ce que je peux vous dire sans aller trop loin.
Voilà, je vais vous proposer d'entrer dans un moment de Sainte-Cène. Alors c'est vrai que
J'avais prévu une introduction, mais je trouve presque dommage d'en rajouter, je dirais, une couche ou une dose. Donc j'ai simplement envie de vous dire que vous lire cette parole de Jean, ta parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors cette sainte scène, c'est aussi nous remplir de Jésus-Christ, de cette relation avec Jésus-Christ, de cette parole aussi qui a été dite. Et je crois que cette parole, elle s'est incarnée, elle s'est faite chair, comme elle se fait chair dans le pain, le corps, dans le vin, le sang de Jésus-Christ. Donc je vous propose de prendre ce sens de cette réincarnation que nous allons manger, que nous allons ingurgiter, alors de façon symbolique, mais c'est cette parole faite chair, cette parole de Jésus-Christ. Alors je vous propose que nous lisions l'institution de la Sainte Cène.
Alors dans Luc 22, 14 à 20, l'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et, ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. »
Seigneur, tu as vu notre incapacité à laisser nos citernes fissurées pour tourner nos yeux vers toi. Et parce que tu nous aimes, tu es venu toi-même vers nous, guérir nos cœurs, pour qu'ils puissent réellement se tourner vers toi. Merci parce que sur la croix, tu as porté toutes nos fautes, passées, présentes et futures. Merci pour ton sang qui a coulé. Merci pour ton corps qui a été brisé. Merci pour cette œuvre magnifique qui est venue réparer nos cœurs, qui est venue panser les plaies, qui est venue redonner la vie à notre être, qui est venu nous reconnecter à notre Créateur qui nous aime tellement. Que ton nom soit glorifié, soit loué encore ce matin, au travers de ce temps de Sainte Cène que nous partageons. Amen.
Alors pendant la distribution de la Sainte Cène, donc nous avons toujours les couronnes avec le jus de raisin au milieu dans les petits gobelets roses et les petits gobelets blancs où il y a du vin. Vous pouvez aussi appeler, voyez le slide, également David, levez la main et David viendra vers vous avec la coupe. Et pendant ce temps, je vous propose aussi d'avoir peut-être un temps de prière. Peut-être si quelqu'un a
un témoignage à donner. C'est volontiers qu'on peut prendre ce moment pendant la distribution de cette Sainte Cène pour pouvoir prier, pour pouvoir témoigner. Je vous propose peut-être, pour terminer ce temps de Sainte Cène, que nous disions le Notre Père. Alors je vous propose de le faire a cappella parce qu'on n'a pas de slide, mais je pense qu'on le connaît assez bien pour se le dire chacun. Alors je vous propose de vous lever. Notre Père, qui êtes aux cieux, Vous pouvez prendre place. Alors nous allons passer à l'offrande. Donc, je le rappelle, elle n'est pas obligatoire. Elle permet de faire vivre notre Église, mais elle n'est pas obligatoire. Donc, puisque votre cœur souhaite donner, que vous le fassiez librement. Merci. Vous avez aussi la possibilité de le faire avec le QR code. Donc, merci pour votre générosité. Cette offrande. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons te remettre cette offrande. Merci aussi de nous rappeler que toi, tu es une source de joie, une source d'eau fraîche. Et ce n'est pas nos réservoirs fissurés, mais c'est toi qui es notre source d'eau vive. Alors, Seigneur, que nous puissions rester accrochés à toi et que ton Saint-Esprit, Seigneur, nous le révèle et nous révèle sans cesse que toi, tu es la joie, tu es la liberté, tu es l'émerveillement aussi, que nous puissions être continuellement émerveillés par toi. Alors Seigneur, nous voulons te donner un peu de nos biens, Seigneur, pour que ça puisse être pour l'annonce de ton royaume. Amen. Quelques annonces. Donc la première, ce que je fais, alors c'est mardi à 20h, l'atelier biblique ici avec Philippe, donc mardi. Ensuite, nous avons les paquets de Noël, donc ils vont commencer avec la récolte. Alors peut-être quelques indications, enfin si vous voulez des indications, peut-être Annick, veux-tu te lever ? Peut-être. Donc Annick sera la responsable de ces paquets de Noël, si j'ai bien compris, pour cette année. Donc est-ce que tu donnerais quelques indications ?
Bonjour à tous, j'ai pas préparé grand-chose là. Je suis pas très à l'aise au micro, alors je vais essayer de faire au mieux. Voilà. Donc cette année ça a un peu changé de fonctionnement. On a fait un stand où on va vous donner un carton ou deux ou trois ou quatre comme vous voulez et quelques petites choses déjà que vous pouvez mettre dans le carton et le reste ce sera à vous de compléter avec une liste qu'on va vous donner. Et puis, on aura aussi un papier où vous pourrez vous inscrire pour nous ramener les paquets. Parce qu'en fait, l'histoire, c'est qu'il ne faut pas que tout le monde ramène les paquets en même temps parce qu'on va être débordé. Donc voilà, voilà. Et puis, j'ai une petite annonce aussi pour toutes les personnes qui ont envie de tricoter à la maison, mais qui ne peuvent pas venir à Tricot & Co, ou qui ont un don particulier au niveau artistique ou... Ils peuvent se joindre à nous dans notre WhatsApp, ils peuvent venir vers moi pour que je les mette dans les WhatsApp de façon à ce que vous soyez au courant de ce qu'on fait à Tricot & Co. Et je remercie déjà toutes les tricoteuses qui ont fait les écharpes, les bonnets, et tout ce qu'on a ici, qu'on pourra déjà mettre un peu dans vos paquets que vous prendrez tout à l'heure. Voilà, merci à tous.
Je rappelle aussi, enfin je vous l'annonce, peut-être vous l'avez sûrement déjà vu, Donc il y a le concert de Glorious Exo, donc il sera samedi 11 octobre à 20h, donc à l'Arena de Genève. Donc pour ceux qui connaissent Glorious, enfin c'est toujours Glorious, c'est vraiment un beau concert et vraiment j'encourage à y aller. Donc les billets sont en ligne, il faut les prendre en ligne. Et c'est samedi 11 octobre à 20h à l'Arena de Genève. Et une dernière annonce aussi qui m'est chère, c'est la Kermesse œcuménique. Alors je ne sais pas s'il y a le petit slide qui arrive. Donc la kermesse aura lieu les 8 et 9 novembre. Et puis comme d'habitude, l'église évangélique de Mérin est engagée pour un stand d'une part de Bible, de livres chrétiens qu'on tient chaque année, et puis aussi par un stand de maquillage et puis quelques jeux pour les enfants. Donc je cherche toujours des maquilleuses, donc mesdames, messieurs, si vous avez ce don de maquiller des enfants, venez vers moi et c'est volontiers que je vous inscris pour 2 ou 3 heures le samedi ou le dimanche. Voilà. Ah ben ça y est, elle est là. Donc vous pouvez venir vers moi, j'ai une petite feuille comme d'habitude, je vous inscris, souvent on regarde l'heure qui vous convient. Voilà, je crois que j'ai fini avec les annonces. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je me tourne du côté de Joanne, non? Extra. Je fais quand même une dernière petite. Ça concerne la flottille. Alors c'est vrai qu'on se pose toujours, sans parler de politique, mais je crois que dans notre église, il y a Sylvie, le fils de Sylvie est parti avec la flottille. Et je crois qu'ils ont risqué leur vie. Ils ne savaient pas s'ils allaient être bombardés ou je ne sais pas par les militaires. Mais ils sont partis avec la flottille. Ils ont été arrêtés effectivement avant d'entrer dans les eaux territoriales. Et puis, il n'y a pas eu de violence. Donc, ils vont revenir ces jours, aujourd'hui, je crois. Donc, c'était vraiment aussi, je voulais quand même signaler qu'il y avait eu cette démarche d'auprès des membres, du fils de Sylvie, membre de notre église. Voilà. Donc, peut-être je laisse la parole à David pour le mot d'envoi.
Alors, je vais reprendre ma bouteille d'eau pour le mot d'envoi. Pouvez-vous lever? Que Dieu nous donne cette eau qui vient remplir notre vie pour qu'elle déborde à l'extérieur de nous. Seigneur, nous plaçons devant toi à la fin de ce culte, alors que nous sommes prêts à entrer dans la suite de notre quotidien, là où tu nous as placés les uns et les autres. Seigneur, nous sommes les bras levés, nous sommes les mains ouvertes pour recevoir cette eau qui remplit le cœur, qui remplit la vie, au point qu'elle nous déborde et qu'elle touche nos collègues, qu'elle touche notre famille, qu'elle touche toutes les personnes qui sont autour de nous, qui ont besoin de cette eau vive, qui ont besoin de cette guérison du cœur. Merci pour ce cadeau que tu nous fais, Seigneur. Fais-le nous maintenant, demain, tout au long de cette semaine. Amen.
N'oubliez pas de boire un petit café, d'avoir un moment convivial. Donc, restez encore quelques minutes.